Bonsoir, bonsoir. Bravo d'être venu jusqu'ici. Alors, un grand merci à Denis Guénoun. Alors, je le présente en deux mots. Il est agrégé de philosophie, un doctorat en philosophie avec Derrida quand même dans le jury. Donc, ça, c'est quand même sur une carte de visite. Je trouve que c'est quand même remarquable. Il était donc, tu as eu une carrière, j'allais dire, assez variée entre la philosophie, donc la littérature, professeur donc à la. D'abord à Strasbourg en littérature, et puis finalement professeur à la Sorbonne en littérature, et entre les deux, directeur d'un centre d'art dramatique national à Reims. Alors tu es auteur, metteur en scène, et puis passionné. Donc j'ai mis sur le petit tract pour les prochaines séances de niguenoun.org, où vous trouverez pas mal de textes qui valent le détour. Donc un grand merci pour ce parcours de philosophie et théologie. Alors le philosophie et théologie, c'est une pratique millénaire. Le divorce, à mon avis, est relativement récent. 6 divorces il y a. Par exemple, Alexandre le Grand, qui vient discuter avec les maîtres de la loi dans le temple de Jérusalem. C'est ce que nous raconte le Talmud. Et alors Alexandre le Grand, il a eu comme professeur... un professeur de philosophie agrégé aussi, Aristote, qui a laissé quelques traces dans la mémoire. Par exemple aussi l'apôtre Paul, qui avait le double cursus de philosophie grecque et de théologie rabbinique. Saint Augustin, qui se prête à 2 lectures, qui sont, elles, à mon avis, relativement divorcées. Les philosophes l'adorent et en font une lecture philosophique. Les théologiens... s'en passionnent et en font une lecture théologique, et entre les deux, ben, ça mériterait peut-être de tricoter les deux, ce serait intéressant. Enfin, je pense qu'effectivement c'est possible de faire une réconciliation, un dialogue entre philosophie et théologie, pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça peut aider à penser, ce qui est quand même pas inutile. C'est pas inutile. C'est pas contre la foi, c'est pas contre l'expérience mystique, c'est pas contre la théologie, c'est au contraire, bonsoir monsieur, un plus. Donc à penser, aussi à dialoguer avec les autres, des croyants, des non-croyants, mais surtout peut-être de penser la vie, de penser nous-mêmes, de penser notre propre vie, et pas simplement pour se gratter le cerveau, comme on ferait des sudokus ou je sais pas quoi, mais... parce que ça peut conduire à des engagements aussi, à une action, à une sagesse pratique. Donc c'est vrai que ça sera, je pense, un parcours intéressant, un parcours même formateur. Alors, comme toute formation, je dirais, dans notre noble assemblée, il y a des philosophes de chez Philosophie, et puis il y a des apprentis philosophes ou des gens qui philosophent sans le savoir. Donc, c'est vrai que ce n'est pas complètement évident de parler à ces deux publics, mais de toute façon, je pense que c'est comme, je ne sais pas comment dire, apprendre un instrument de musique. Si on essaye une heure et qu'on se dit, j'y arrive pas, non, il faut essayer un peu plus longtemps. C'est un langage, c'est une gymnastique, et donc il faut un petit peu quand même de persévérance dans l'exercice pour rentrer dedans. Donc, c'est sans doute... la première séance qui est la plus difficile, ensuite la deuxième un peu plus facile, la troisième encore plus facile, et ensuite je pense qu'on pourra rentrer vraiment dans cette gymnastique. Donc grand merci Denis, et donc avec un petit sujet pour aujourd'hui.
Merci beaucoup Marc, merci à vous tous, merci à cette très belle maison. Alors j'y vais hein, direct, puis après peut-être on fera un peu mieux connaissance, on bavardera, je pense parler autour de 40 minutes environ. Que veut dire autour, je ne sais pas, mais disons à peu près 40 minutes, ou un peu plus, mais voici donc. L'ancienne logique, la logique classique, définissait 2 caractéristiques différentes pour toute notion ou tout concept, l'extension et la compréhension. L'extension d'un concept était l'ensemble des objets d'une même classe réunis par ce concept. Prenons pour exemple la notion de table. L'extension de cette notion est l'ensemble des tables que le mot permet de désigner, à l'exclusion par exemple des chaises et des armoires. Je note au passage que quand les philosophes veulent prendre un exemple simple, c'est souvent une table ou un arbre. Comme si tous les philosophes ne pratiquaient la philosophie qu'assis à une table, devant une fenêtre, devant un marronnier. La compréhension du concept, elle, est l'ensemble des caractères d'un objet désigné par le mot. Ainsi, la notion de table, pour m'inscrire dans cette auguste lignée, nous permet de savoir que l'objet comporte un plateau sur lequel on peut faire une activité plus ou moins utile, plateau généralement supporté par un ou plusieurs pieds. Une question intéressante, mais connexe, est de savoir dans quelle mesure la compréhension d'un concept permet ou non d'inclure des sens dérivés ou figurés, comme ceux de table de multiplication ou de table des matières. Laissons cela, si vous le voulez bien, pour l'instant. L'ancienne logique avait établi une sorte de loi selon laquelle l'extension et la compréhension d'un concept varient en raison inverse. Ce qui veut dire que lorsque l'extension augmente, la compréhension diminue, et réciproquement. Par exemple, si je passe du concept de table à celui de meuble, l'extension augmente. Il y a plus de meubles que de tables, puisque toutes les tables sont des meubles, mais tous les meubles ne sont pas des tables. Dans les meubles, on inclut les chaises et les armoires, ce qui fait un plus grand nombre d'objets. Mais lorsque je dis meuble, je sais moins de choses sur chacun de ces objets que je n'en sais si je dis table. En tant que meuble, l'objet dont je parle est souvent en bois, plutôt utile, déplaçable, etc. Alors que comme table, le même objet est en bois, utile, déplaçable, mais en plus comporte un plateau et généralement un ou plusieurs pieds. Ainsi, de table à meuble, l'extension a augmenté et la compréhension diminue. Telle était une des visions de l'ancienne logique. Si nous remontons dans l'extension, nous pouvons passer ainsi de table Louis XV à table, puis de table à meuble, puis de meuble à objet utile, puis d'objet utile à choses matérielles, etc., avec des étapes intermédiaires ou pas. Chaque fois, nous incluons un plus grand nombre d'objets et nous connaissons moins de propriétés pour chacun d'entre eux. Au bout de cette chaîne, si nous cherchons quelle est la classe d'objets la plus générale, qui comprend tout ce qu'on peut désigner ou penser. Selon certains philosophes, pas tous comme vous allez le voir, nous parvenons à un mot, une notion, peut-être un concept, celui d'être. De tout, on peut dire que cela est, au moins dans certaines langues. Tenons-nous pour l'instant dans le champ du français. De tout, on peut dire en français que cela est. Non seulement les objets matériels qui sont, mais également les objets de pensée ou les objets imaginaires qui sont aussi selon un autre mode. Être imaginaire, être de pensée, être de réflexion. Et donc, pas seulement pour les objets réellement existants, mais aussi pour les autres. Une licorne, voilà encore un animal très prisé par les philosophes, je m'insère aujourd'hui dans de solides traditions, une licorne est, au moins comme objet littéraire, artistique. Elle est imaginaire, et donc elle l'est, d'une certaine façon. Être, ce n'est pas exister réellement, l'affaire serait trop simple, et sans doute trop pauvre. Toutes sortes de choses dont l'existence est discutable sont, assurément, les créatures de mensonges, les objets de pensées fumeuses, les figures de rêve. Donc, dans cette hypothèse,
Et cette langue, tout est. Sauf peut-être, mais c'est une drôle d'affaire, le non-être, le néant. Laissons cela aussi un instant, même si la question, est-ce que le non-être est, se voit discuter depuis les origines de la philosophie. Elle fait l'objet de grande partie du magnifique dialogue de Platon consacré à l'être, qui s'appelle le Sophiste. Et donc, si elle est longuement examinée par un esprit d'une telle profondeur, c'est que la réponse n'est pas acquise. Mais passons. À cette exception près de taille, on peut dire que tout est. Ce qui signifie que la notion d'être est la plus générale qui soit, et donc celle dont l'extension est la plus vaste. Mais, si la règle de l'ancienne logique est valide, cela signifie, du même coup, que la compréhension de ce concept est extrêmement faible. À vrai dire, si de tout on peut dire que cela est, en le disant, de chaque être, on ne dit rigoureusement rien. Si l'extension du concept d'être est absolument générale, alors sa compréhension est vide. C'est ce dont le philosophe allemand Hegel, du XIXe siècle, prend acte à sa façon lorsqu'il écrit « Cet être, bonsoir madame, enfin, Hegel n'écrit pas ça, mais bonsoir quand même, cet être pur est l'abstraction pure. Qui, pris en son immédiateté, est le néant. Le néant est, de même, inversement, la même chose que l'être. En effet, si pour aboutir au concept d'être, il faut préalablement retirer toutes les propriétés particulières des objets, alors il est abstraction totale, pure, et en ce sens, vide de tout contenu propre. Et il est équivalent au concept de néant, qui est le résultat d'une abstraction équivalente. Être et néant se trouvent ainsi paradoxalement réunis par le vide qui leur est commun. Mais de nombreux philosophes se sont opposés, ultérieurement ou par avance, à cette façon de voir. Car cette évacuation de tout contenu laisse un reste. Presque nul, mais pas tout à fait. L'opposition elle-même entre être et ne pas être. Le vide de ces deux termes et donc la nullité de leurs valeurs contraires ont été contestés selon trois approches. En premier lieu, on peut considérer que cette façon de voir, qui pose que le mot être est vide, de tout sens déterminé, procède d'une confusion entre deux usages du terme. Au sens grammatical du mot. Son emploi que l'on dira prédicatif et son emploi comme copule. Commençons par le second. Une copule est un mot de liaison qui n'a de valeur que par la relation qu'il ou elle établit entre deux termes. En ce sens, être est une simple copule si je dis la feuille est bleue ou cet homme est un Français. D'ailleurs, certaines langues n'emploient aucun mot pour établir ce lien, ce qui semble confirmer que le vocable, en français, assume là une fonction seulement syntaxique et qu'aucun sens ne lui revient en propre. Il n'y a pas de chaise, on peut se conseiller.
Il y a encore une petite chaise là-bas.
Il y a une chaise là, Isabelle, regarde, il y a une chaise là. Mais il en faut une autre. Donc, si être est une simple copule, cela semble indiquer que ça n'a pas de sens qui lui revienne proprement. D'ailleurs, certaines langues, comme je l'ai dit, n'emploient aucun mot pour établir ce lien. Dans ce cas, la logique des classes d'objets fonctionne pleinement. Il est exact que la classe feuille bleue est plus limitée que la classe feuille, et donc que la détermination de chaque feuille est plus précise, etc. Mais alors, si je suspends tout attribut, toute qualité, tout deuxième terme dans la relation, pour dire non plus la feuille est ceci ou cela, mais la feuille est la feuille est, alors la caractérisation devient vide, sans aucun contenu. Ce qui semble valider notre premier constat. Or, peut-on dire, ce n'est pas en ce sens, comme copule, que le vocable être est considéré par la philosophie depuis le sophiste de Platon, même si le dialogue aborde aussi ce point. Le mot est envisagé dans sa valeur prédicative, ce qui n'a pas grand-chose à voir avec ton activité principale, mais sinon de très loin. Dans ce cas, le terme est employé en quelque sorte pour lui-même, non plus pour dire que tel sujet A ou B est porteur de tel prédicat, bleu, français, le mot « être » devient alors le prédicat. A ou B est, cela se dit en ce sens, ou A ou B n'est pas. Dans cet emploi, non seulement le sens n'est pas vide, mais il pose un sens premier, peut-être de première importance. L'opposition entre être et non-être ne se réduit pas alors à une identité formelle, mais au contraire, constitue le défi fondamental posé devant la pensée. C'est ce que semblent considérer quelques bons esprits. Shakespeare, comme on sait, qui fait dire à Hamlet que être ou ne pas être, c'est la question. Bien sûr, Hamlet est un peu fou, ou beaucoup. Mais cela n'interdit pas que la formule ait du poids, surtout si on en juge par son extraordinaire postérité. Ou encore Leibniz, qui demande « Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ?» Le philosophe Martin Heidegger, philosophe du XXe siècle, dans une double référence implicite mais évidente à Shakespeare et à Leibniz, affirme que telle est la question, qu'il caractérise comme la question fondamentale de la métaphysique. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Dans cette vision, le fait qu'il y ait quelque chose et non pas rien, donc la différence entre être et non-être, leur simple opposition, devient le contenu le plus fondamental, le défi le plus profond adressé à toute pensée. C'est pourquoi, dans une deuxième approche que voici, la question reste bel et bien ce dont il s'agit dans l'être, malgré la vacuité, alors tout apparente, du contenu du mot. On peut entendre ainsi la célèbre formule d'Aristote qui ouvre le livre Gamma, qui est en fait le quatrième de son traité, la métaphysique. Je cite « Il y a une science qui étudie l'être en tant qu'être, on et on, et les propriétés de cet être par soi. Il s'agit bien alors de l'être en lui-même, dégagé de tout être particulier, ce qui s'est dessiné devant nous lorsque nous avons progressivement laissé s'écarter toutes les propriétés, les caractéristiques de tel ou tel objet pour ne plus retenir que son être. C'est à cet être, en tant qu'être, qu'Aristote attribue le travail d'une science toute particulière et déterminée. Mais comment aborder une telle étude? Quel en est le contenu exact? Ce soir, je ne proposerai pas d'examiner les suggestions d'Aristote à ce sujet, mais plutôt, à l'autre extrémité de la philosophie occidentale, je vous suggère de nous arrêter à une proposition faite par Heidegger. Pour celui-ci, lorsque nous disons le plus couramment « être », un être, des êtres, ce n'est pas le sens authentique du mot que nous mettons en jeu. Nous parlons en fait des étants, et le participe présent du même terme. Les étants, avec A-N-T-S, donc bien sûr, ce sont les choses qui sont. Pourquoi faire cette différence? Parce que dans l'attention portée à cette distinction entre les deux termes, étant et être, s'impose la distinction entre les choses qui sont, les étants, et le fait d'être. L'être de ces choses. Un étant, ce peut être tout objet de pensée ou de sensation en tant qu'il est. Un étang, c'est cette table, encore elle, cet arbre, qui lui sert de compagnon philosophique, mais aussi les feuilles, les animaux, les plantes, les pensées, les rêves, les images, et donc les humains qui les portent. Chacun de ces objets-là, qu'en général nous appelons des êtres, sont, au moins selon Heidegger, des étangs. Cela veut dire qu'ils sont, et qu'en les considérant, nous examinons ces objets qu'ils sont avec leurs données, leurs propriétés, leurs caractéristiques. Mais une toute autre réalité est constituée non par un étang qui est, mais par le fait qu'il est. Le fait d'être, pour lui, la dimension d'être. Cette différence entre l'être et les étangs, entre les étangs et leur être, est pour Heidegger fondamentale. Elle constitue le premier foyer de sa pensée. Autour de son livre « Être et temps »,« Sein und Zeit », qui a été un véritable coup de tonnerre dans le ciel philosophique du XXe siècle et dont les effets résonnent encore, quoi qu'on pense par ailleurs du Gaillard. Cette différence entre « étant » et « être », Heidegger l'appelle à cette époque la différence ontologique. L'ontologie, ontologie, avec O-N-T-O, est la pensée de l'être, le discours sur l'être. Pour Heidegger, dans ces années-là, la différence ontologique est la différence entre l'être à proprement parler et les étangs, qui sont simplement et presque secondairement les choses qui sont. Ajoutons encore ceci, pour le fun. Comme on attribue l'adjectif ontologique à ce qui concerne l'être, ce qui concerne les étangs est qualifié comme ontique. Ontologique concernant l'être, ontique qui porte sur les étangs. Du coup, on appelle la différence entre l'être et les étangs différence ontologique, c'est-à-dire différence de l'être, mais aussi parfois différence ontico-ontologique, différence de l'être avec les étangs. C'est le goût des philosophes ou de certains d'entre eux pour les termes d'allure technique. Nous pourrons reparler de cette manie, si vous le souhaitez. Une question qui a un certain intérêt. Peut-être cette distinction n'est-elle pas tout à fait claire. Et c'est bien normal pour un objet aussi difficile. Pour l'entendre un peu mieux, venons-en à la troisième approche que j'ai annoncée. Et remarquons alors une nouvelle donnée grammaticale. Nous avons fait depuis le début comme si nous l'ignorions, mais en vérité, le mot « être » est un verbe. Or, dans l'abord de notre problème, nous l'avons utilisé comme un nom, l'être. C'est une caractéristique de l'infinitif, traiter le verbe comme un nom. Nous employons cet usage, que les grammairiens appellent substantivé, lorsque nous disons par exemple qu'il faut fournir à des affamés le boire et le manger. C'est par un déplacement analogue, fréquent en philosophie, que nous entendons l'être comme un nom, comme un substantif, en lui adjoignant l'article défini, le. Par exemple, dans les titres de célèbres ouvrages, « L'être et le néant » de Jean-Paul Sartre, ou « L'être et l'événement » d'Alain Badiou, dans un cas comme dans l'autre, l'être est mis en parallèle avec une notion désignée par un nom. Eh bien, à l'opposé, il faudrait nous habituer à réentendre le mot « être » comme un verbe. C'est ce que demandait Heidegger et, après lui, le philosophe français d'origine lituanienne, Emmanuel Levinas. Il faut perturber nos habitudes. Où l'expression « l'être » s'est sédimentée dans son acception substantive. Surtout en philosophie. Et réentendre dans le nom, le verbe, qui y est comme tapis enfoui. Or, entendre l'être comme un verbe, c'est en un certain sens l'entendre comme action. C'est en quelque sorte entendre être comme l'acte d'être. Le devenir, le développement, l'événement d'être. Non pas l'être comme un état, comme une situation ou une propriété donnée, mais comme un événement qui se produit, qui arrive. Alors peut-être la différence entre étant et être devient-elle plus évocatrice. Il s'agit de distinguer les choses qui sont, comme des sortes d'états ou de substances, si l'on veut, et d'entendre cette dimension toute différente en elle, qu'est l'acte d'être. L'acte, le processus, le mouvement qui les fait être. C'est parce que nous confondons systématiquement les choses qui sont et leur puissance d'être, leur processus ou leur acte d'être, pour dire cela de façon un peu imagée, que selon Heidegger, nous avons oublié le sens de l'être. Affirmation qui fait l'entame retentissante de son livre, Être étant. Et d'ailleurs, il faut dire, non pas le sens de l'être, ce qui est encore une façon de le substantiver par usage de l'infinitif, mais plutôt le sens d'être. C'est peut-être ce qui donne à la différence ontologique sa portée, comme différence entre, d'une part, ce qui est, et d'autre part, l'acte d'être, l'événement d'être, qui fait être ce qui est. Telles sont les petites mises au point que j'ai souhaité faire pour répondre à l'interpellation terrifiante qui m'avait été adressée très amicalement avant l'été par l'une d'entre vous, que je ne désigne pas, bien qu'elle soit dans cette salle. « Ah, c'est formidable ce projet de séance de philosophie, tu ne pourrais pas nous expliquer l'être ?» Ce qui est à peu près équivalent de la question que je pourrais adresser à Marc Pernaut, c'est « Formidable l'oratoire, tu ne pourrais pas m'expliquer Dieu ?» Ou d'autres, hein. Et pourtant, je n'ai pas voulu me dérober. Si je convoque ici ce parallèle, ce n'est pas simplement pour nous détendre un instant et respirer à mi-parcours, mais parce que vous êtes bien en droit de vous souvenir que le titre annoncé pour ces séances est « Philosophie et théologie ». Et non pas « Philosophie » tout court. En quoi les mises au point que nous venons de faire concernent-elles la théologie? En quoi peuvent-elles fournir un exemple de la relation complexe qui unit ou qui sépare les deux disciplines que nous avons affichées en enseigne de nos séances mensuelles pour cette année? La théologie est l'étude de l'idée de Dieu. Vous l'écrivez comme vous voulez, c'est-à-dire Dieu avec un D minuscule ou un D majuscule. Pour l'aborder, je vais donc devoir employer le mot « Dieu ». Il me faut alors préciser que je l'emploie toujours comme une sorte de citation. Je devrais dire ce qu'on appelle généralement « Dieu ». Pour ne pas alourdir chaque phrase, je m'en tiendrai à l'usage. Mais cela ne présage en rien de la manière dont je pourrais choisir de m'exprimer si j'avais à présenter ici mon point de vue propre. Je le ferai, bien sûr. Assurément au cours de l'année, mais pas pour commencer. Je vais d'abord tenter de situer le problème au confluent entre philosophie et théologie. Si nous nous plaçons à ce carrefour, il y a là encore trois façons, entre autres, d'énoncer le problème qui va nous occuper. La première façon est de poser comme point de départ que Dieu est. Sous le regard de l'ontologie, si Dieu est, cela signifie qu'il est un étant, comme tout ce qui est. Il a la propriété, la caractéristique d'être, et il est donc un étant. Qu'on le considère comme un étant doté de vertus très particulières ne change rien à ce statut. On peut le voir, par exemple, comme un étant antérieur à tous les autres, par priorité chronologique. Ou bien comme un étang muni d'une suprématie qui en fait l'étang majeur ou primordial, supérieur aux autres, par une concentration, une éminence d'être. C'est ce que portaient, par exemple, des conceptions fréquentes au XVIIIe siècle sous le nom d'être suprême. Être voulait dire là quelque chose comme quelque chose qui est, comme on dit, un être, ce que nous avons choisi pour l'instant d'appeler un étang. Cette façon de comprendre le statut ontologique de Dieu comme étant, le statut donc ontique, faudrait-il dire, de Dieu, est ce qu'on caractérise aujourd'hui comme une ontothéologie. Cela revient, d'une part, à poser Dieu comme un étant supérieur aux autres, primordial dans l'être, et d'autre part, conséquemment, à considérer que tous les autres étants découlent ou résultent de cette priorité par une relation de cause à effet. Mais beaucoup de penseurs et de théologiens objectent à cette façon de voir, car elle aboutit à situer Dieu dans le même champ ou ordre de réalité que tous les étants, que tout ce qui existe. Et elle lui dénie donc une authentique transcendance. C'est ce que le théologien Rudolf Bultmann, dont nous aurons à reparler, théologien du XXe siècle, dont nous aurons à reparler au cours de l'année, caractérise comme l'attitude mythique. Et mythique, dit Bultmann, ce qui traite le transcendant comme un étant du monde. Lorsqu'on raconte par exemple que Zeus s'est déguisé pour venir séduire la femme d'Amphitryon, Alcmène, comme dans la pièce de Molière, on se situe dans le mythe, parce que Zeus, malgré son statut divin, entre en relation, c'est le cas de le dire, avec les étangs du monde, de façon qu'on pourrait dire intramondaine, par exemple en souhaitant faire l'amour avec une belle femme, et en y parvenant d'ailleurs. Le mythe, ce serait cela, l'intégration du transcendant dans le mode de réalité des étangs du monde. Mais j'en ai pris un exemple simple, il y a des mythes plus discrets. Chaque fois que je traite la transcendance sur le plan de réalité des autres étangs, d'une façon ontique, je lui dénie sa transcendance effective, je la rapatrie et la dissous dans la mondanéité du monde, dans l'être-monde du monde. Il en va ainsi chaque fois que je traite Dieu comme un étang, c'est-à-dire chaque fois que je me contente de dire que Dieu est. S'il est, c'est un étang, et si c'est un étang, il est intégré au plan ontique ou mondain, il a perdu sa transcendance. Cette façon de voir a des prolongements, car elle conduit à penser que pour maintenir la transcendance du divin, il ne faut pas considérer, en tout cas de façon simple, que Dieu est. Et pour le dire autrement, comme l'existence appartient aux étangs, il n'y a que les étangs qui existent, on reviendra peut-être plus tard sur ce terme, si vous le souhaitez, dire que Dieu existe ou n'existe pas, sur ce point c'est équivalent, c'est le traiter comme un étang du monde. C'est en faire un mythe. Ce trait va s'accentuer dans la deuxième façon d'aborder notre problème, que voici. Car on peut aussi dénier à Dieu ce statut d'étang, de réalité ontique, pour le déplacer sur le terrain ontologique, celui de l'être, et dire par exemple que Dieu est à penser non pas comme une chose qui est, parmi les choses qui sont, mais au sens que nous avons essayé d'approcher, comme l'être de ce qui est. Ceci a fait et fait encore en partie la faveur de la pensée de Heidegger chez certains théologiens. Le fait que la différence ontologique ou ontico-ontologique, la différence entre l'être et les étangs, permet à leurs yeux de penser de façon neuve la transcendance du divin. Le divin, dans cette conception, n'est pas un étang parmi d'autres, mais l'être, entendu comme la puissance d'être, l'événement d'être, l'acte d'être de ce qui est. Cela tire Dieu non plus du côté de l'étang, de l'état, de la substance ou du nom des choses, mais du côté de l'acte, de l'événement, du processus ou du devenir. Non pas devenir au sens historique, mais devenir inscrit dans les êtres, comme leur devenir être, leur action d'être ou leur mise en être, comme on dit mise en scène. Dieu, alors, n'est pas un être, mais c'est l'être, ou l'acte d'être de tout être. Dans ce cas, il n'est pas tout à fait exact de dire que Dieu est, car il n'est pas tout à fait juste non plus de dire que l'être est. Ce n'est pas l'être qui est, ce sont les étangs. Faisons une comparaison. Le boire ou le manger. Il n'est pas juste de dire que le boire, le fait de boire, l'acte de boire, boit, ni que le manger mange. Ce n'est pas le boire qui boit, Ce sont les buveurs, les vivants, les humains, les animaux, voire les plantes. Un peu au sens où, par une image de Venise célèbre, on pouvait faire dire à Spinoza que le concept de chien n'aboie pas. Dans le même sens, il n'est pas tout à fait exact de dire que l'être est. Ni qu'il n'est pas, d'ailleurs. En quelque sorte, ce n'est pas son problème. Ce sont les étants qui sont, et les non-étants qui ne sont pas. L'être est le fait d'être. Et si Dieu a quelque chose à voir avec cet événement, s'il est la puissance d'être de tout ce qui est, il n'est pas juste, en toute rigueur, de dire qu'il est, ni non plus qu'il n'est pas. Il fait advenir l'être de ce qui est. Dieu n'est pas une chose, quelle qu'en soit la hauteur. Dieu est un acte, un verbe. La troisième et dernière façon d'aborder cette question risque de se montrer un peu plus difficile. C'est celle d'Emmanuel Lévinas. Celui-ci a publié en 1978 un livre au retentissement considérable intitulé « Autrement qu'être ». Avec un sous-titre qui est plus qu'un sous-titre, « Ou au-delà de l'essence ». Le titre définit le programme. Lévinas disait souvent que ce qu'il cherchait à penser n'était pas un autre être, une autre sorte d'être, ou un être autrement, mais un autrement qu'être. En quel sens? Je vais ici simplifier beaucoup et caricaturer un peu. Selon Lévinas, la problématique de l'être est associée à une façon grecque de penser le monde, héritée de la Grèce classique et donc de la philosophie qui s'y est formée, au moins dans une de ses orientations. Selon cette vision, le monde est l'ensemble des étants. Devant eux se trouve un sujet qui connaît ou fait l'expérience de ce monde. Le rapport du sujet au monde est, dans sa plus grande généralité, un rapport de savoir, c'est-à-dire une sorte de face-à-face entre les étants qui sont et le sujet qui les connaît ou les éprouve. C'est dans ce rapport de savoir, selon Lévinas, d'inspection du monde, que je me constitue comme un moi, comme le même que moi, comme un moi-même. Le moi, dans son identité de sujet, et le monde, comme l'ensemble des étants, forment un système uni. Tout intégré dans ce modèle du savoir, c'est ce que Lévinas considère comme une manière grecque, comme l'hellénisme dans la pensée. Et le schéma de l'être et des étants, tout entier, avec sa distinction ou sa différence, s'inscrit dans ce dispositif, ce modèle de la connaissance du monde. Selon ce système, connaître, c'est voir apparaître le monde devant soi et le dominer par le regard. Il y aurait ainsi une complicité profonde entre l'idée de l'être d'un côté et le modèle du savoir de l'autre. Ce sont deux faces de la même structure. Heidegger, dont Lévinas était un grand connaisseur, même s'il avait une profonde raison de divergence avec lui, avait déjà initié cette critique du modèle de la connaissance objectivante et dominatrice. Traiter le monde comme un ensemble de choses, comme un ensemble d'étangs, pour les arraisonner, au lieu de s'ouvrir à leur éclosion, à leur événement. Car Heidegger opposait à l'objectivité du savoir une sorte d'ouverture plus radicale à l'être, un recours à l'être comme racine, source ou lumière. Pour s'arracher à ce modèle de l'objectivité, il fallait, selon Heidegger, retrouver le sens de l'être, le sens d'être. Lévinas, en opposition franche à Heidegger, prend une toute autre voie. Pour lui, il faut inaugurer une autre façon de penser, s'affranchir de cet assujettissement à la question de l'être. Cette autre pensée trouve sa source dans les textes bibliques, qui, selon Lévinas, transforme l'approche que nous avons héritée des Grecs classiques. Car à ses yeux, la pensée biblique en appelle à quelque chose de plus primordial, plus radical que l'être lui-même. Il ne faut pas simplement libérer la transcendance de son enfermement dans les étangs, dans l'étantité de l'étang, comme le propose Heidegger. Une autre dimension outrepasse l'ontologie, même la plus fondamentale. Lévinas en trouve déjà l'amorce dans la pensée grecque, mais en quelque sorte à sa limite, au point où elle se dépasse. Par exemple, dans la profonde et énigmatique formule de Platon qui évoque le bien au-delà de l'être. Eti epekeina tes ousias. Surprenante formule, il y aurait pour Platon quelque chose à entrevoir au-delà de l'être, qui est ici caractérisé comme le bien, ce quelque chose qui est au-delà. Mais pour donner sa pleine dimension à cette pensée, l'impulsion fondamentale pour Lévinas est assurément biblique. Je dois dire à ce propos que, comme Ricoeur, grand lecteur de Lévinas, celui-ci, Lévinas, a développé sa réflexion dans deux langues distinctes. L'une orientée vers l'écoute de la Bible et l'autre proprement philosophique. Une langue hébraïque et une langue grecque, si l'on veut. Mais cette opposition entre Athènes et Jérusalem peut être mise en question. Et d'ailleurs, Lévinas, pas plus que Ricoeur, ne voulait établir une séparation étanche entre ces deux modes de pensée. Au contraire, pour l'un comme pour l'autre, l'élan fondamental tenait sans doute au désir de faire dialoguer ces deux langages, philosophie et théologie, en quelque sorte, quoique la symétrie soit boiteuse. Il y a donc une autre pensée que celle qui s'inscrit dans le regard connaissant et dominateur. Lévinas en trouve le modèle dans l'appel, celui qu'on reçoit, l'interlocution, et donc l'adresse, l'écoute. C'est autre chose que l'inspection par le regard dominateur. Car l'écoute, l'adresse, ou ce que Lévinas appelle la pensée du dialogue, nous ouvre à une sollicitation par la présence, l'inquiétude ou la joie de l'altérité, et en particulier par la souffrance et par la douleur, autres qui nous hèlent de leur voix ou de leur silence. La souffrance autre, l'autre souffrance, la souffrance de l'autre, des autres. Cette écoute, cette ouverture ne sont pas connaissantes, ni donc inspectrices, mais réceptives. Non pas un savoir que le moi possède, mais une fracturation de l'être soi, de l'être même, de l'être le même que soi, par l'interpellation de l'autre. Pour Lévinas, l'altérité dont il s'agit est indissociable de l'autre humain, de l'humanité de l'autre, mais simultanément, elle est l'altérité antérieure, origine de toute humanité, qui la constitue et la dépasse. Elle est l'autre que l'être, l'autrement qu'être. Il s'agit d'un appel ou d'une sollicitation qui s'impose par effraction au cœur de ma subjectivité, et dont l'extériorité constitue paradoxalement le psychisme même de mon âme. C'est cette extériorité constituante, fondatrice, qu'on a souvent appelée à propos de Lévinas l'éthique, qu'il pense alors comme plus primordial, plus radical, comme un autre régime, plus prioritaire que celui de l'inspection de l'être. Mais cette extériorité, cette altérité et cette priorité sont très difficiles à concevoir. Il ne suffit pas de penser les étangs d'abord comme étangs et de poser ensuite à leur propos la question des valeurs, d'un plus ou moins bien qui affecterait leur être. Il faudrait, et c'est très difficile, cela excède peut-être les bornes de notre pensée, concevoir que l'instance du bien est plus fondamentale que l'être et l'existence. Et qu'en ce sens, elle transcende tout ce qui est. Dans ce cas, la transcendance, ou Dieu, si vous voulez l'appeler ainsi, n'est pas un être majeur, plus profondément ou plus densément étant que les autres étant, mais le transcendant ou la transcendance sont à penser autrement que selon l'être, au-delà de toute essence, comme un a priori qui ouvre une valeur avant même tout exister. Et qu'il impose de penser plutôt comme autre que comme être. Et même pas comme un être autre, mais autrement qu'être. L'acte éthique de l'évaluation, mais ce n'est pas exactement un acte, engagé en moi par l'irruption de l'autre, est plus prioritaire, plus originaire que l'être, même dans sa radicalité ontologique. Là se tient la transcendance. Pour Lévinas, la transcendance n'est pas celle de l'être, elle se donne toujours et d'abord comme éthique. Disons-le ainsi, je vous raconterai peut-être une anecdote tout à l'heure à ce propos si vous le voulez, disons-le ainsi, même si chacun de ces mots serait à perturber, comme le fait Lévinas dans son extraordinaire syntaxe. Éthique, acte, valeur, tout cet attirail qu'il ne cesse d'inquiéter et de faire vaciller dans son style. On pourrait relire certains textes de l'Exode ou de l'Évangile de Jean dans cette étrange et à vrai dire obscure clarté. C'est ce qu'il lui est arrivé d'appeler l'éthique comme philosophie première, contestant que l'ontologie soit vraiment fondamentale. Philosophie première, c'est l'autre nom de la métaphysique dans l'histoire de notre culture. Philosophie des premières causes, philosophie des premières choses, des étangs et de leur être en tant qu'être. Pour Lévinas, la métaphysique est délogée de cette primarité. C'est l'éthique qui vient à la source. J'ai fini.
Bon, merci beaucoup. Alors moi, je vous propose quelques textes bibliques. Hein. Donc,
on revient en terrain inconnu.
Pour retomber en terrain inconnu, je vous laisse. Donc, il y a un petit texte biblique qui peut tourner donc à l'intérieur, hein, à l'extérieur. Donc, pour aller chercher un peu, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait dire dans ce domaine à partir de la Bible. Donc le texte auquel on pense immédiatement, et en t'entendant, à mon avis, Lévinas se basait aussi là-dessus, c'est Exode 3, bien sûr, parce que avec ça a fait énormément, ça fait des millions de commentaires. C'est pas très facile à traduire ce fameux « je suis qui je serai ». En tout cas, ça tourne autour de cette question, à cause de la traduction, si vous voulez, en grec, donc qui date de moins 300, ego eimi o on, donc je suis l'étang, en fait. Donc Dieu se présenterait comme étant, comme s'appelant o on, l'étang. Alors, cette traduction, elle n'est pas très précise, parce que en hébreu, il n'y a pas marqué ego eimi, je suis o on, l'étang. Il y a marqué Asher, il y a marqué Eye, Asher, Eye, c'est-à-dire je suis, deux points, ouvrez les guillemets, je suis. Ou alors, mais c'est plus compliqué que ça, parce que si vous voulez, par rapport à ce que tu disais, le verbe être est une copule, pas en hébreu du tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin du tout du verbe être comme copule en hébreu. Si vous avez déjà le texte devant vous, au début, Moïse est envoyé, maintenant va, je t'envoie. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers le pharaon? Dans le français, il y a marqué « qui suis-je ?» Dans l'hébreu, il n'y a pas marqué le verbe « être suis ». Il n'y a pas besoin de. Donc, je l'ai mis entre parenthèses. Il y a marqué « qui ?»« Moi ». Il n'y a pas besoin du verbe « être ». Par contre, quand Dieu dit « je suis avec toi » ou « je suis », deux points, ouvrez les guillemets, « je suis », là, il y a le verbe « être ». Mais alors, le verbe « être » en hébreu, ce n'est pas comme le verbe « être » en grec ou en français. Puisqu'il ne sert pas de copule, il ne sert pas non plus tellement en hébreu pour dire simplement ce qui est. Puisque pour dire ce qui est, il n'y a pas besoin du verbe hébreu. Il suffit de le désigner par son nom. On dit arbre, c'est que l'arbre est. Il n'y a pas besoin de dire il y a un arbre. Il y a un arbre devant ma fenêtre. Quand il y a le verbe être, haya, c'est plutôt quand il y a un mouvement, ou quand il y a quelque chose de vivant, si vous voulez. Quand il y a un mouvement, quelque chose qui est source de quelque chose de nouveau. Donc c'est un verbe d'action, vraiment un verbe d'action. Et donc, c'est la première distinction. La deuxième, si vous voulez, c'est que ce n'est pas au participe présent comme un étang, c'est-à-dire quelque chose qui est figé, comme la table, c'est un étang. Mais c'est à l'inaccompli. Et donc l'inaccompli, c'est à la fois le présent et le futur. Pour ça que j'ai mis, Dieu dit, je suis, je serai avec toi. Parce qu'il n'y a pas de temps vraiment défini. Ce n'est pas du présent, c'est du futur, c'est du présent, c'est ce que vous voulez, mais c'est plus compliqué.
Alors pourquoi, au lieu de dire je suis, on ne peut pas dire j'agis avec toi?
On pourrait, j'agis avec toi, j'agis pour toi, ou je suis un être dynamique, c'est pas forcément. Hein,
ça serait peut-être meilleur que je suis.
Peut-être. Sauf que, si vous voulez, quand Dieu dit je suis, il n'y a pas je suis avec toi, je suis tout court. Et donc je suis, c'est-à-dire qu'il est vivant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est.
Il agit avec lui.
Il agit, mais alors oui, mais dans le je suis tout court. Je suis, deux points, je suis. Il est en lui-même, mais il est dynamique, il est en mouvement, il est voilà. Donc c'est la première, si vous voulez, complication. Alors finalement, la traduction grecque de moins 300, ego eimi o on, je suis l'étang, c'est déjà une interprétation, si vous voulez. C'est une interprétation, une lecture qui n'est pas fidèle à ce qui est en hébreu, mais on a le droit de faire des interprétations. Le texte biblique est donné pour ça. C'est une des interprétations possibles de ce ayez à chair ayez. Je suis, je serai, ou je suis ce que je serai. Bref, c'est une des interprétations, c'est-à-dire que Dieu est l'être suprême finalement. Voilà, il existe de toute éternité. Ça peut vouloir dire ça. Il est immuable. Alors voilà, il y a des gens qui disent que l'être humain, il n'existe pas vraiment, puisqu'il est changeant. Donc on n'est pas la même chose demain qu'aujourd'hui. Donc en fait, on n'existe pas vraiment puisqu'on est sans arrêt changeant. Donc Dieu est au on, ça voudrait dire que Dieu est immuable, et donc lui, il existe vraiment parce qu'il ne change pas. À mon avis, en hébreu, ça dit le contraire. Alors quelle traduction, quelle interprétation en font les rabbins et puis la théologie chrétienne « je suis, je serai » Il y a deux interprétations très différentes. La première, c'est de dire effectivement le nom de Dieu, c'est « je suis », c'est-à-dire que c'est un être qui est la source première de tout, c'est la source de tout, la source première de tout. On pourrait dire « c'est le seul qui est incréé, le seul qui est inconditionné, c'est le seul qui peut parler à la première personne au sens propre du terme, puisque nous en sommes bien incapables, puisque on est un peu sujet de quelque chose, mais aussi on est le produit de tout un tas d'autres choses. Lui, non, Dieu peut parler à la première personne. » Donc ça en fait, dans un certain sens, révélation d'un Dieu. Dieu se révèle comme ça, donc du coup on peut le connaître, et du coup, voilà, on connaît Dieu parce qu'il a donné son nom. Et effectivement, on peut voir après, « Je suis » m'a envoyé vers vous, donc il s'appelle lui-même vraiment « Ayez ». Donc c'est son nom, il s'appelle « Je suis ». Voilà. Alors, si Dieu dit au sens propre pour lui-même « Je suis », si c'est son nom, quand Moïse parle de lui, il utilise Yahou, ce qui veut dire il est, parce qu'il en parle à la troisième personne, si Dieu parle à la première. Et c'est un des sens possibles, finalement, de ce tétragramme sacré, YHWH. Yahou, en hébreu, ça se prononçait comme ça, on le sait, parce qu'il y a des gens qui s'appellent, par exemple, Nathan Yahou, c'est resté, donc c'est des noms théophores. On sait que le tétragramme se prononçait Yahou, parce qu'il reste dans les noms comme ça. Nathan Yahou, ça veut dire l'éternel, Yahou, donne. Donc, c'est la première lecture. La deuxième lecture, au contraire, c'est de comprendre ce « je suis », deux points « je suis », ça veut dire « Dieu ne répond pas ».« Je suis qui je suis » et si tu poses plus de questions, je ne peux pas t'expliquer. Donc, ça veut dire « je suis inconnaissable ». Je ne peux pas vous expliquer qui je suis simplement ce que je suis. Et circuler, il n'y a rien à expliquer de plus. Donc, ce n'est pas le Dieu innommable, parce que innommable, ça veut dire quelque chose de sale, finalement, mais c'est plutôt le Dieu ineffable. C'est le Dieu de la théologie, on dit apophatique, c'est-à-dire ces théologies mystiques qui datent depuis l'origine des temps jusqu'à maintenant, en disant Dieu est toujours au-delà de ce qu'on peut en dire, et donc en refusant, finalement, de dire quelque chose sur Dieu qui est au-dessus de tout langage, même qui est inconnaissable, au-dessus de toute pensée. Mais c'est pas dans ce texte, il y a plusieurs « je suis », il n'y a pas que le « je suis » deux points « je suis » ou « je suis » va te faire voir pour savoir qui je suis. Ça dépend, voilà, il y a deux interprétations différentes. Il y a un premier « je suis », c'est le « je suis avec toi » et c'est un « je suis » qui envoie, vous voyez, « va, je t'envoie ». Donc c'est ce que disait Denis tout à l'heure, c'est ce que reprend à mon avis Lévinas. C'est un Dieu qui a entendu la souffrance du peuple hébreu, juste un peu avant, à la fin du chapitre 2, qui a entendu et qui du coup réagit en envoyant. Donc c'est un Dieu qui est un dieu, on pourrait dire, de l'éthique, ou un dieu en tout cas qui est source de mise en mouvement, qui est source d'être dans un certain sens. C'est-à-dire que Moïse n'est plus, après cette rencontre, comme il était avant. C'est un dieu qui est source d'être. Et le deuxième « je suis », donc lui, vous avez le choix de le comprendre comme vous le voulez. Le troisième, c'est « je suis le dieu de vos pères, le dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ». C'est ce qu'on peut appeler le dieu qui accompagne, c'est le dieu de la miséricorde finalement, c'est le dieu qui est avec. Et ça, ça fait aussi, c'est fondamental aussi dans la théologie hébraïque. Donc c'est quelque chose qui peut aussi là nous parler. Alors ensuite, on peut voir dans Apocalypse 1, bon je vais vite parce qu'il faut laisser du temps à votre débat, de ce que je pourrais dire. La traduction d'Apocalypse est intéressante du tétragramme, donc de Yahvé, de Je suis. Il traduit celui qui est, qui était et qui vient. Et il développe bien effectivement ce verbe être comme dans le temps et aussi dans cette, un événement finalement. Dans la lettre aux Romains, Paul intervient aussi en présentant Dieu comme d'abord inconnaissable, c'est-à-dire invisible. Mais on peut voir sa puissance éternelle et sa divinité, c'est-à-dire on peut voir plus par son effet, parce qu'il est source d'être finalement, ou source de mise en mouvement, et puis aussi, eh bien, effectivement, d'appel. Alors dans les Actes des Apôtres, je l'ai mis parce que c'est un passage qui est touchant, où Paul discute avec les philosophes à Athènes, et donc il dit que, voilà, Dieu, au verset 27, hein, acte 17, 27, donc Dieu, c'est impossible finalement de le voir, hein, de le trouver, mais il n'est pas loin de nous, car en nous, en lui, nous avons la vie, le mouvement hein, et l'être. Et c'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes que, voilà, que je ne connais pas. Nous sommes aussi de sa race. Donc là, c'est quand même intéressant, parce que si vous voulez... on voit Dieu qui est source de l'être, on voit Dieu qui est source de vie et de mouvement pour nous, et on est de sa race, c'est-à-dire qu'on est à la fois une créature, donc entre le créateur et la créature, on est de deux natures complètement différentes, comme l'ébéniste et la table, je veux dire, ça n'a rien à voir l'un avec l'autre. Et pourtant, on est de sa race, donc on est aussi créateur comme Dieu est créateur, donc dans un certain sens, il y a du divin en nous, et donc avec une divinisation de l'homme qui est un des programmes finalement que pourrait être celui de Dieu. Donc j'en dirai pas plus sur ces textes, c'est juste pour voilà, faire des jonctions entre la philosophie de l'être et puis la théologie avec ces quelques textes bibliques. On aurait pu mettre aussi dans l'évangile selon Jean, dans les lettres de Jean, beaucoup de passages très intéressants sur ces questions, mais je pense que ça suffit largement pour ce petit temps. Donc à vous, est-ce qu'il y a des questions à Denis, des remarques sur...
Michel. Merci d'abord pour cet exposé excessivement clair, mais néanmoins je n'arrive pas à très bien comprendre. On va revenir à Lévinas, où tu as parlé d'un appel, d'une adresse, etc. Mais alors, qui est le sujet qui répond? C'est-à-dire, dans le système grec, t'as comparé, il y a un étang face à d'autres étangs, ils cherchent à connaître, c'est clair, on voit qui est qui, etc. Mais dans le système de Lévinas, où tu parles d'appel, où tu parles de... provoquer un appel, qui répond à l'appel? Si tu n'as pas des temps, si tu n'as pas... Qui est en face de la difficulté?
Non, c'est tout à fait une question. Pour le dire de façon simple, hein, parce que il me semble que ce qu'il indique, c'est que justement, la question qui aboutirait à définir celui qui répond par son être lui-même, par son identité d'être, par son être même. Alors tout ça, il s'en explique évidemment longuement sur cette affaire du même, pourquoi selon lui c'est le même qui guide tout ça. Tout ça est ce qui aboutit à nier l'appel.
L'appel, c'est quelque chose qu'on reçoit avant d'être, tu vois, en quelque sorte. C'est-à-dire, c'est, y a, pas avant d'être chronologiquement, encore que, probablement, il pensait ça aussi, mais c'est quelque chose qui m'ouvre à la possibilité même de dire « je ». Il y a un schéma, si tu veux, pour Lévinas, qui est très clair, c'est y a un appel avant tout, mais c'est pas forcément un appel, c'est pas forcément entendre des voix, hein. C'est peut être simplement le fait de, c'est beaucoup pour Lévinas le fait de regarder ou d'être regardé par le visage de quelqu'un. C'est une personne.
C'est,
voilà, absolument, absolument. Le grand livre de Lévinas qui date de 1961, qui s'appelait Totalité et Infini, était sous-titré et c'est sur l'extériorité. C'est l'extériorité qui constitue ça. Et puis, alors qu'est-ce qui se passe quand je reçois l'appel? Alors ça, c'est toute une autre affaire. C'est-à-dire, les prophètes, la tradition biblique, quand ils reçoivent l'appel, ils répondent « me voici ». Voilà, « me voici ».« Me voici », c'est pas « je suis un tel », c'est « voilà, j'arrive, je suis là ».
Hineni.
Hein? Exactement, c'est ça. « Me voici ». Donc en fait, il y a quelque chose. Je reçois et je réponds. Réponds, c'est entrer dans le régime de la responsabilité. Mais je reçois aussi l'appel de quelqu'un, hein, qui dit, voilà, quand je vois quelqu'un qui est malheureux, qui souffre, etc., c'est un appel, et qu'est-ce que je fais? Si je réponds, voilà, je me voici. Ça, c'est plus... C'est ce qui est très difficile pour Lévinas, c'est que Lévinas s'exprime dans la langue de la philosophie, très marquée par l'histoire de l'ontologie, on peut dire de Platon à Heidegger, pour ne parler que de celui-là, mais que, au fond, il essaie de la... de l'excéder, de la dépasser, et qu'il y a quelque chose qui me... Il y a une fracture, tu vois, qui est avant, lui, il dit avant, bon, moi, je dirais pas ça comme ça, mais lui, il dit avant, qui est avant même que je sois ce que je sois. Alors, il n'est pas le premier ni le dernier à dire ça. Hein. Il y avait de longs antécédents. Augustin, que tu citais tout à l'heure, dans une phrase extrêmement célèbre, très, très célèbre, dit « Dieu plus intérieur à moi que moi-même ». C'est une phrase vertigineuse, c'est le cas de le dire. Hein. Tu tombes là-dedans comme dans un trou. Plus intérieur à moi que moi-même. C'est-à-dire, il y a quelque chose de plus intérieur que l'intériorité. L'intériorité, c'est moi-même. Hein, c'est moi, je suis moi, voilà. C'est qui je suis qui, je suis intérieur. Eh bien, il y a quelque chose qui est plus, mais pas dehors. Qui est, alors là, c'est une extériorité tout à fait interne, tu vois. Qui est plus au-dedans que moi-même. Eh bien, chez Lévinas, ce n'est pas exactement dans ces termes. Quoique Lévinas ait été un grand lecteur d'Augustin, bien sûr, comme tout le monde. Mais... enfin, tout comme tous les gens qui prétendent dire quelque chose en philosophie, il n'y a pratiquement personne qui ne soit tombé sur ces textes d'Augustin, mais c'est quelque chose comme ça, mais qui est plutôt dans le registre. Il y a une fracture avant même qu'il y ait une matière qui se fracture, tu vois, il y a une espèce de fracture originale, originaire, initiale, qui est la fracture de quelque chose qui m'arrive et qui est l'autre. Alors, autre, tu mets ce que tu veux dedans. Autre, tu vois. Voilà, pour essayer de répondre.
Mais ça, c'est intéressant, parce que le mot même d'église, finalement, ça ne veut pas dire communauté, ça ne veut pas dire rassemblement, ça ne veut pas dire unité de pensée. Au contraire, c'est ek kaleo, c'est appeler hors d'eux, finalement. Appeler à sortir de soi-même, sortir de chez soi, par une voix qui appelle. Et c'est, ça vient de l'hébreu, finalement, le kaala, qui est le même mot, je pense, enfin, je ne sais pas si c'est un hasard, le même mot que call en anglais, finalement, l'appel. Enfin bref, kaala, ça ne veut pas dire rassemblement ni communauté, ça veut dire une convocation, un appel, voilà. Et c'est ça qui est vraiment fondateur de...
Madame, pardon.
Oui, tout à fait. Mais on pourrait le comprendre comme étant un ordre, effectivement. Et si on peut lire un peu ces textes comme ça, sauf que non, il y a c'est un appel beaucoup plus à être. Voilà, c'est ça.
Madame.
Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur l'éclosion dont vous avez parlé? C'est pas simplement être pleinement, c'est autre chose. Qu'est-ce que vous pouvez en parler?
On n'entend pas.
Madame demande si on peut revenir sur l'idée d'éclosion qui a été évoquée à un moment de l'exposé. Et vous dites que ce n'est pas simplement, voilà, comment vous avez dit, être pleinement, oui.
Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui a à voir, c'est plutôt chez Heidegger, hein, c'est dans la pensée de Heidegger. Je crois que Heidegger réfléchit beaucoup au mot d'éclosion, en particulier lorsqu'il réfléchit au mot de physis en grec, qui est le mot dont nous avons fait physique et qui veut dire nature, en gros. Nature, ça veut dire ce qui naît. Hein. Physis, ça veut dire ce qui, en un certain sens, ce qui apparaît, pas apparaît au sens qui se rend visible, mais qui se constitue par ouverture, éclosion. Donc en général, ça a été traduit de l'allemand par ce terme-là. Chez Heidegger, si vous voulez, il y a une tentative, je ne dis pas qu'elle est... Moi, je ne la suis pas, hein, même si je pense qu'on ne peut pas éviter de la traverser, mais je ne la suis pas, qui consiste à... Lui, son problème, pour le coup, c'est vraiment l'être. Vraiment, il a passé toute sa vie à plonger là-dedans, en venant de la théologie, d'ailleurs, il ne faut pas l'oublier, mais en s'en éloignant, très jeune, mais très nourri de culture intensément théologique. Et le problème pour Heidegger, c'est de considérer tout, par exemple ce qui est, pas seulement, mais tout, dans un mouvement, mais un mouvement qui n'est pas simplement un devenir au sens il y avait ça, puis après il y a ça, puis après il y a ça, si vous voulez, un devenir au sens historique du mot, mais un mouvement interne qui fait que tout ce qui est s'ouvre en quelque sorte. Mais cette ouverture, pour lui, a été masqué ou s'est retiré, enfin il l'a dit de façon très différente selon les moments, donc nous pouvons ne pas l'avoir. Et il y a toute une série d'éléments de la culture qui aboutissent à ne pas avoir cette ouverture qui est dans les choses, espèce de, voilà, d'éclosion interne. Alors dans la nature, on peut en gros, si on n'oublie pas et si on ne traite pas la nature comme un ensemble d'états, si on n'oublie pas que la nature c'est le fait de naître, par exemple évidemment la fleur, puisqu'on parle d'éclosion, hein, l'ouverture propre de la fleur qui est une chose infiniment mystérieuse au fond, si on n'oublie pas ça, dans la nature, ça nous apparaît assez nettement. Mais pour Heidegger, je pense que c'est pas seulement la nature en tant que, voilà, en tant que fait de nature, c'est tout ce à quoi il pense, c'est pourquoi il a, selon les moments, alors au début de sa vie, c'était beaucoup cette compréhension de l'être, après ça a été beaucoup la question de l'éclosion, après il en est venu à quelque chose qui est autour de ce qu'on traduit souvent par événement, Ereignis, mais qui est une autre chose, qui est là encore ce qui devient. Alors c'est quelque chose qui concerne une identité d'être, mais cette identité, c'est une identité qui s'ouvre, voilà. Tandis que pour Lévinas, c'est pas du tout une identité, c'est au contraire c'est le refus complet de la faire de l'identité.
Madame, une explication chez les existentialistes ou chrétiens par la puissance de l'agapé. C'est l'agapé qui fait ouvrir à l'autre. C'est ça. Si on étudie la dialectique, je crois que c'est dans l'existentialisme chrétien.
Oui, entre autres, oui. Alors, vous me donnez l'occasion, excusez-moi madame, c'est un peu une digression, mais vous me donnez l'occasion de dire un mot sur la méthode, en quelque sorte, que je propose dans avec, j'espère, l'aval de Marc, même s'il est toujours très, très ouvert. Toi, tu es vraiment dans l'éclosion pure, hein. C'est-à-dire que tu es vraiment tout le temps ouvert. Donc, la méthode que nous voudrions proposer. D'abord, comme vous l'avez vu, il n'y a pas de plan de l'ensemble des séances. De la même manière que j'ai reçu cette sollicitation qui m'a fait réfléchir tout l'été, hein, sur l'être, parce que ça m'a paru tellement vertigineux. Puis je me suis dit, mais quand même, voilà, il y a quelque chose dans ce vertige-là qu'il faut essayer de ne pas, à quoi il faut essayer de répondre, de dire me voici. De la même manière, il y a des choses qui en quelque sorte se présentent. Après cet exposé-là, il m'a paru légitime, enfin bienvenu peut-être, de vous proposer pour la prochaine séance un commentaire de texte. D'abord, je viens à ce que vous demandiez, madame, à l'instant. Un commentaire de texte, et puisqu'on a parlé de l'être, faire un commentaire de texte sur l'autre. Donc, je vous propose un texte de Lévinas, qu'on peut d'ailleurs diffuser, soit sur le site, il est tout à fait prêt et défini, soit sur le site, soit en... peut-être le site, c'est le plus simple, hein, le mettre sur le site, ou je ne sais pas, comme tu veux, à condition que vous ne vous effrayiez pas. parce que c'est très très compact. Hein. D'ailleurs, on s'est dit, si on le distribue là, au début de la séance, plus personne ne vient, c'est sûr. Parce que c'est du Lévinas extrêmement compact. Mais le jeu, ça serait, c'est une autre sorte de jeu que celui qu'on a essayé de jouer aujourd'hui, ça serait de dire, bon, bah alors on prend, c'est une petite page, hein, on la prend dans sa compacité, puis on essaie de s'escrimer avec, et on voit ce qui se passe. Alors c'est ce que je vous proposerai, ce texte qui s'appelle, comme Marc l'a indiqué ici sur le petit papier que vous avez, « L'idée de l'infini et le visage d'autrui ». C'est un extrait d'un article qui date de 1957.
Le titre est quand même assez appétissant quand même, c'est joli. C'est un beau titre. Ouais.
Voilà. Et puis, du coup, dans l'enchaînement des choses, pour toutes sortes de raisons, aussi pour entendre d'autres voix, mais à tous les sens du mot, j'ai demandé à Marc si ça lui paraissait bienvenu, et puis il m'a beaucoup encouragé, d'inviter quelqu'un qui est quelqu'un de tout à fait extraordinaire, je tiens à vous le dire tout net, et Jean-Baptiste Brenet, qui est un homme qui n'a pas l'air de ce qu'il fait, parce qu'il paraît très jeune, mais en fait il est quand même titulaire de la chaire de philosophie arabe à la Sorbonne, philosophie arabe plutôt spécialisée en philosophie médiévale, et il va venir nous parler, enfin, dans l'entretien, il est extrêmement clair, lui, alors. Alors lui, c'est la clarté incarnée, hein. C'est vraiment quelqu'un d'une clarté tout à fait exceptionnelle. D'Averroès et de la manière dont se pose le rapport théologie et philosophie dans le Moyen-Âge arabe. Voilà. Je crois que c'est peut-être bien d'entendre une autre voix, et puis aussi pas seulement une autre voix, parce que c'est essentiel pour nous tous, et puis je suis évidemment pas capable de parler du tout de ça. Mais en revanche, sur les séances suivantes, madame, j'avais envie d'attendre comme ça et de réfléchir à des mots, un petit peu comme on a pris lettre, là. Et sur une des séances, je voulais proposer un groupe de mots. On a pensé aussi à un lieu, hein, je vais vous dire en quel sens. Et le groupe de mots auquel je pense, c'est Eros, Philia, Agapé. Alors, il y a une très, très célèbre opposition Eros-Agapé, mais voilà. Et il y a aussi la Philia, qu'il ne faut pas oublier, qui est là au milieu, qui, vous savez, veut dire en gros amitié, mais qui veut dire aussi le sentiment politique. Voilà. Donc, Eros, bon, je vous laisse traduire si vous y arrivez, Agapé, et qui sont deux mots qu'on traduit par amour, mais qui veulent dire des choses sensiblement différentes, et Philia, qu'on peut traduire par amour aussi. Je crois que nous allons faire une séance là-dessus, madame. C'est pour vous dire que je pense que c'est une question extrêmement passionnante, et voilà, parce que moi je ne suis pas du tout capable, et je ne souhaite pas faire ici une sorte d'histoire de la philosophie, j'ai plutôt envie de prendre des points, des nœuds comme ça, qui sont des nœuds, soit que ça vienne de vous, comme c'était le cas aujourd'hui, soit que ça vienne de moi. Oui, François ? Voilà. Et il y a une autre hypothèse, par exemple, pour provoquer une séance, c'est, je voulais parler d'un lieu. Il y a des lieux de rencontre très étonnants entre théologiens et philosophes, des villes, des moments où tout le monde se retrouve à un endroit et il se passe une espèce de déflagration de pensée, et prendre l'un de ces lieux pour y réfléchir. François, Nicolas.
Non, c'est pour rebondir aussi sur la proposition d'existentialisme. Si tu veux, comment dire, prenons-le de... Si on aborde les questions de l'être dans une rencontre philosophie-théologie, on peut donc imaginer qu'on l'aborde, disons, du point de la foi, une possible foi. Hein, je distinguerais une foi d'une croyance. Alors, on va dire, si on le prend, donc, la question de l'être du point d'une foi, laissons ça dans la généralité, il ne va déjà pas de soi que la foi a rapport à l'être. Deuxièmement, on va dire, si une foi a rapport à l'être, peut-être qu'elle a rapport à l'être plutôt par ceux qui manquent à l'être, ou ceux qui trouvent l'être, ou ceux qui font défaut à l'être, plutôt que par sa plénitude, on va dire. On va dire, la plénitude de l'être, c'est plutôt la figure du créateur, on va renvoyer ça plutôt à la figure de la croyance, mais il n'est pas sûr que la foi se constitue dans une figure, dans un rapport au créateur. Alors, de ce point de vue-là, bon, évidemment, tu nous as adressé un tableau qui est forcément limité à la philosophie, on va pas... Mais enfin, disons, essayer de penser ce qui peut manquer à l'être, à mon avis, ce qui est sûr, c'est que ça ne peut pas se faire dans le cadre d'Heidegger avec la dialectique de l'être et du temps. Ça ne marche pas. Parce que là, c'est plombé, c'est verrouillé, etc. Donc, il faut quand même aller regarder vers d'autres philosophies. C'est-à-dire, effectivement, soit des philosophies d'existentialisme, c'est-à-dire qui opposent l'existence, parfois, qui se gardent en démocratiquement. Donc, l'existence en tant qu'elle est un trou dans l'être, enfin, je veux dire, elle n'est pas un non-être, mais elle est effectivement un. Bien sûr, la philosophie de Badiou, l'événement, mais pas l'événement au sens de l'événement de la puissance de l'être, parce que là, l'événement devient. Il est tellement généralisé, c'est comme chez Deleuze, il est partout. Bon. Non, mais l'événement au sens de ce qui trouve l'être. Bon. Et quand même, de ce point de vue-là, on peut dire que la foi chrétienne, elle est quand même chevillée à Pâques, et après, c'est vraiment quelque chose qui prend la figure d'un événement, quelque chose qui trouve l'être. Qui trouve l'être. Y compris d'ailleurs par le fait que. Ça s'indique d'une résurrection dont on ne sait pas très très bien exactement ce que ça dit. Mais voilà, c'est quelque chose qui supplémente l'être, pas la même figure. De... Donc, c'est ça que je voulais simplement souligner. Enfin, c'est-à-dire que peut-être que si on aborde par la question de la foi, une fois qu'on va se demander quel est le rapport de la foi d'une foi possible, enfin, ou en tout cas l'hypothèse d'une foi à l'être, et à ce moment-là, il faut quand même avoir une pensée de l'être, il faut plutôt s'intéresser, me semble-t-il, aux philosophies qui, du point de vue de l'être, laisse droit à bon, un trou dans l'être, un supplément, une faille de l'être, un manque à être, etc. Parce que, alors c'est quand même ce qui ne va pas dans Lévinas, c'est-à-dire dans Lévinas, il suppose toujours le sujet, il est préconstitué, il existe avant. Bon, alors évidemment, là c'est fastoche dans ces cas-là. Mais enfin, on sait très bien que le problème de la foi, c'est comment tu nais à la foi, c'est-à-dire comment, finalement, c'est un rapport qui t'invente à la foi, enfin, c'est la foi qui te constitue. Alors évidemment, on voit bien dans le cas chrétien, c'est Pâques qui constitue la foi. Donc il faut qu'il puisse arriver quelque chose à l'être pour qu'il puisse y avoir la foi, on va dire. Et donc il faut avoir un système, enfin un système, la foi n'a pas forcément besoin d'un système philosophique, c'est pas ça. Mais c'est aussi pour cette raison que Pascal dit le Dieu des chrétiens, c'est pas le Dieu des philosophes au sens précisément de l'être et de l'étant. C'est pas cette affaire-là, c'est une toute autre affaire. C'est pour ça que. On va le dire soit dans la figure de l'existentialisme au sens de Kierkegaard, soit dans la figure Badiou de l'événement, c'est-à-dire que l'être. Voilà. Alors, ce qu'on va constater aussi, c'est qu'à ce moment-là, il y a quand même deux figures possibles de la philosophie, soit une figure comme celle, effectivement, de Kierkegaard, qui en un certain sens fait l'économie d'une ontologie, en un certain sens, ou alors celle de Badiou, mais à ce moment-là, qui est obligée d'avoir une pensée de l'être qui est formalisée. C'est-à-dire qu'il y a comme principale caractéristique que la pensée de l'être adéquate à penser ça ne peut pas être dans le langage, ne peut pas être langagière. Ce n'est pas le langage, l'opérateur qui va permettre de penser un être de telle manière qu'il soit suffisamment troué ou manque à être pour qu'il puisse y arriver quelque chose à l'être. Enfin bon, voilà, c'était un peu des propositions, si tu veux, peut-être pour la suite.
Bien sûr.
Bah, une formalisation, c'est-à-dire la thèse de Badiou, c'est que la pensée de l'être, c'est les mathématiques, pour vous dire les choses. Bon, vous voyez bon, et là, vous voyez bien que les mathématiques, vous ne pouvez pas les faire strictement dans le langage, parce que dans le langage, vous êtes entré dans les choses. Bah non, vous êtes obligé de
l'écrire. Là, il y a un problème.
Ah bah oui, il y a un gros problème.
Il y a un problème dans la culture chrétienne.
Non, non, mais les justement, je pense que la foi n'a pas besoin d'une ontologie.
Non, c'est ça, c'est pas réducteur, c'est sur le langage.
Oui, mais parce que justement, la foi, elle n'est pas, à mon avis, elle ne se constitue pas directement dans un rapport à l'être, c'est pas son problème. C'est plutôt, encore une fois, où si c'est en tant qu'il est possible d'avoir un rapport à l'être, où l'être défaille, où il y a des manques, ou quelque chose comme
ça. Merci beaucoup.
Qui s'appelle Pâques, qui s'appelle la résurrection, qui s'appelle.
Alors, est-ce qu'il y a d'autres.
Oui, qu'est-ce que le temps, la loi, le temps, la séparation, toutes ces notions-là, peut-être tout de même, je me suis pas mis, théoriquement, elles devraient l'être.
Oui, pardon.
À la lumière de ce que tu as dit là, comment arrive à comprendre le titre de Tillich, le courage d'être? Alors, la réponse, tu vas finalement, ça serait dans la position de Lévinas, ça c'est le courage de répondre, nous voici.
Alors pour Tillich, Tillich est de ceux qui n'ont pas de réticence fondamentale, ce livre le montre, mais toute son œuvre le montre, à employer la catégorie de l'être. Hein, il l'utilise pleinement, hein, pleinement. C'est d'ailleurs ce qui est passionnant dans les remarques que nous a suggéré Marc. et à quoi on reviendra, pas directement, mais par d'autres entrées, comme on disait à l'instant, c'est que, en fait, il s'est passé quelque chose dans notre histoire au moment où des mots qui étaient ou bien écrits en hébreu pour ce qui concerne la grande partie du corpus biblique, ou bien prononcés en araméen, au moment où ces mots ont été traduits en grec, et pas seulement traduits en grec au sens en grec comme langue d'usage courant, mais ont été traduits profondément dans la conceptualité de la philosophie grecque. Hein. Et ça commence ça dès l'intérieur de textes bibliques, c'est-à-dire en particulier dans le Nouveau Testament, mais pas seulement, déjà dans les événements. Mais évidemment, on connaît ces textes tous, on les a tous à l'esprit, mais en particulier dans l'Évangile de Jean, mais pas seulement. Mais en particulier dans l'Évangile de Jean, qui est véritablement un traité de théologie au sens grec du mot, et théologie est un mot grec. Parce que logos est un mot grec, qui a traduit comme il pouvait toutes sortes de choses qui essayaient de se dire, au commencement a été le logos, donc voilà, c'est un choix très fort de dire ça en grec, et puis aussi parce que théos est un mot grec. C'est-à-dire que ce que nous avons traduit comme Dieu, le mot dont nous avons fait Dieu, est un mot grec. Il y a eu des gens qui ont considéré qu'une des grandes catastrophes de l'histoire occidentale était la traduction de tout ça par théos. Voilà, tu vois. Donc je ne dis pas que c'est mon point de vue, mais il s'est passé quelque chose au moment de la traduction en grec. Et cette affaire est une affaire absolument passionnante, parce que d'une part, c'est toute une histoire de transfert de la compréhension, transfert des études, translation des études. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe à un moment donné où des gens, c'est une longue affaire du Moyen-Âge, prennent des notions grecques qu'ils redécouvrent peu à peu, qui leur arrivent par toutes sortes de véhicules, pour essayer de défendre en particulier au début auprès des pouvoirs politiques, de défendre une histoire qui vient par le christianisme, qui vient de la culture biblique. Donc essayer de la traduire, quoi. C'est cette grande affaire de traduction. Et une des raisons pour laquelle la présence de Jean-Baptiste Brenet parmi nous sera passionnante, c'est que maintenant, on sait bien, on le sait depuis longtemps, mais disons aujourd'hui, on y insiste beaucoup, sur le fait que dans ce transfert de la vers la pensée grecque, les Arabes ont joué un rôle absolument déterminant. C'est-à-dire qu'une grande partie de la pensée grecque, avant qu'elle nous ait été connue en Europe directement par l'affiliation de la Grèce à notre culture, c'est arrivé par des penseurs, en particulier andalous. Voilà. Alors, il y a cette grande affaire de traduction. Mais cette affaire, c'est une affaire énorme. Parce qu'au fond, nous, ce dont nous héritons, c'est d'une culture qui nous arrive par les textes bibliques, et puis d'une culture qui nous arrive par la conceptualité grecque. Et tout le monde, je ne crois pas qu'il y ait de contre-exemple, tout le monde se débat avec ça. Tout le monde essaie de voir comment on peut... alors, il y a ceux, comme tu disais, François c'est de quoi il parle quand il parle de ça, François Nicolas, que je me permets de vous présenter, il y a ceux qui ont purement et simplement intégré ça dans le corpus théorique issu de la philosophie grecque. Et puis, il y a tous ceux, ils sont très nombreux, avec des tas de stratégies différentes, qui ont essayé de savoir comment ça faisait trou dans la pensée grecque, comment ça créait, mais en même temps qu'il y avait besoin de la pensée grecque pour définir ce trou et pour le dire, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait besoin des instruments. C'est déjà le cas de Jean, hein, sauf erreur, c'est
bien sûr,
qui avait besoin de ces instruments de la pensée grecque pour essayer de dire ce qui fait trou à la conceptualité grecque, quoi.
Oui, parce que Jean, dans le prologue de Jean, c'est-à-dire dans l'introduction à son évangile, il fait un midrash, c'est-à-dire il fait une relecture de la première page de la Genèse en injectant de la philosophie grecque, de la philosophie du logos, donc des stoïciens. Et il essaye effectivement de penser voilà, ce qui a fait comme irruption dans l'histoire, dans sa foi, l'événement Jésus-Christ, pour essayer de le penser avec ces catégories, avec en faisant une sorte de synthèse, je dirais, très féconde, en fait.
Bien sûr, oui. Bien sûr.
très féconde.
Donc il faut qu'on essaye de débrouiller ce que Lévinas appelle une intrigue, quoi. C'est-à-dire comment ça se joue entre les uns et les autres. Et c'est pour ça que je trouve le sujet philosophie et théologie très passionnant. Mais philosophie et théologie, c'est dit en grec. Quand vous dites philosophie, c'est grec. Et quand vous dites théologie, c'est un mot grec. C'est-à-dire, c'est dit en grec. En le disant comme ça, on le dit déjà en grec. Hein? Donc, on le dit, on est déjà dans la manière de le penser, on est déjà pris dans l'expression grecque des choses. Hein? Il faudrait dire philosophie et je ne sais pas quoi, enfin, autre chose. Mais d'essayer de travailler à cette jointure-là. Et tout le monde y travaille. Hein? Il n'y a pas seulement les gens qui travaillent parce qu'ils sont dans des milieux censément religieux. Tout le monde y travaille. C'est-à-dire, tout le monde essaie de comprendre comment ça se joue là. Oui, pardon, monsieur.
J'ai une question justement. Vous interrogez sur le rapport entre philosophie et théologie. Je comprends que depuis Platon jusqu'à saint Thomas, l'immuable, le permanent, le fixe, est relégué, le devenir au sensible, c'est très bien. Et donc, ça induit une définition de Dieu comme être suprême, aussi éternel, immuable, etc. Et je ne sais pas, au 20e ou au 19e, on a changé l'être, le devenir, comme je l'ai dit, on a ouvert au mouvable, etc. Et du coup, la question de Dieu aussi a évolué. Donc, du coup, on a calculé du process, etc. Et donc, les deux questions, premièrement, c'est pourquoi on a fait ce changement de valeur. Et les deux questions, ça ne induit pas aussi, quelque part, que la théologie serait un peu tributaire de la philosophie, d'ailleurs, découverte de la théologie, qui aurait des conséquences théologiques.
Alors, si vous voulez, sur la question de l'être et du devenir, hein, pour le dire. D'un mot, de deux mots, si c'est possible. Le débat, il existe à la naissance de la philosophie, hein, depuis toujours. Pas depuis toujours, depuis qu'il y a de la philosophie, disons qu'au 6e siècle, au 5e siècle avant Jésus-Christ, donc dans les pré-socratiques, il y a deux traditions qui se font face. Une qu'on associe au nom de Parménide, qui en gros serait quelqu'un qui a plutôt, mais c'est toujours plus compliqué que ça, parce que ça, ils sont roublards, hein, les gaillards. C'est toujours plus compliqué que ça, qui aurait dit quelque chose du côté de l'être, dans sa permanence, et quelque chose en face, Héraclite, qui aurait parlé, vous savez, Héraclite, c'est le fleuve qui coule, qui aurait parlé du point de vue du devenir, où tout est devenu. Donc cette alternative est posée, je la simplifie de façon extrêmement schématisée, hein, est posée d'emblée. Alors, la question qui est de savoir si à certaines époques de la philosophie, il y a eu une tendance qui était dominante par rapport à une autre. Pendant longtemps, on disait ça, on disait voilà, oui, ça a été dominante. C'est probablement plus complexe. En revanche, la question est de savoir qu'est-ce qu'on entend par devenir. Parce que si le devenir, c'est simplement la série des modalités de l'être, ça rentre dans le... C'est vrai, vous avez raison, que quelque chose qui est arrivé avec les modernes et qui sans doute ne cesse, en tout cas à mon avis, de se creuser et qui aboutit en théologie. Moi, j'ai été passionné par la lecture des théologiens qu'on appelle du process, si vous voulez, qui sont une manière d'intégrer ça, mais elle est très passionnante. Tout ce qui est arrivé depuis les modernes aboutit à essayer de se comprendre ce qu'est le devenir, enfin, c'est-à-dire de le penser dans sa radicalité extrême, avec des exceptions, parce que l'affaire du devenir chez Badiou, par exemple, c'est tout à fait particulier. Hein. C'est Badiou, il a un rapport au devenir qui est extrêmement particulier, par exemple très différent de celui de Deleuze, dont on peut dire que c'est un penseur du devenir. Bon, alors voilà, ça c'est vrai, moi je pense que c'est assez vrai. Qu'est-ce que ça exprime? Est-ce que ça exprime, comme certains le pensent, une espèce de... d'effondrement de l'être, qu'on ne saurait plus sur à quoi s'accrocher, qu'on n'aurait plus de sol, quoi, et qu'il y aurait, tout serait que de la transformation et du flux, c'est pas sûr. On peut envisager comme ça, mais c'est pas sûr. Et quant à savoir si la théologie est tributaire des états de la pensée philosophique, je pense que c'est vrai, mais qu'elle lui rend bien à la philosophie. Parce que ce qui est certain, c'est qu'en effet, elle se formule. Par exemple, Heidegger, pour reprendre cet exemple, Heidegger a une influence mais très 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 profonde sur la théologie, et pas seulement sur la théologie, sur la philosophie du XXe siècle dans son intégralité. Badiou, il est très débiteur à l'égard de Heidegger, mais, et même Lévinas, qui en est un adversaire très profond. Toute la pensée de Lévinas, une contestation de Heidegger. Bon, Lévinas était, entre autres, Lévinas était juif, et il a vécu la Seconde Guerre mondiale, et Heidegger aussi, mais Heidegger était nazi. Donc, ça fait quelques différences. Donc, il y a une espèce de contestation très intense, très radicale, mais en même temps, avec une nécessité de se comprendre et de se connaître. Mais la théologie le lui rend bien, la philo. C'est-à-dire que la philosophie est elle-même habitée, hantée, traversée par les courants théologiques. Je crois qu'il n'y a pratiquement personne qui y échappe. C'est évident chez Hegel, c'est évident chez Kierkegaard, c'est évident chez Nietzsche, pour prendre des géants de la philosophie, mais c'est assurément évident chez Marx. C'est assurément évident chez Marx. La source, la nourriture de la pensée de Marx est imprégnée de théologie. Imprégnée. Donc en fait, il y a ce mouvement dans les deux sens. Quoi.
Oui. Non, ce que vous dites me rappelle les premiers mots d'un livre d'Anna Arendt qui s'appelle « La crise de la culture », mais vous devez connaître. Je ne sais plus si c'est exactement les termes, mais elle dit que la philosophie est née avec Platon parce qu'il la transforme et que Marx, il a tué la philosophie, je crois. C'est ce qu'elle... Je ne sais pas si je comprends bien, mais...
Vous voulez
est-ce
je
que
réponds?
Marx a tué la philosophie, je...
Vous savez, dans l'époque que nous avons vécue et que nous traversons encore, pendant un temps, je pense qu'on est peut-être, sorti, le plus grand acte de fidélité qu'on faisait à l'égard d'une discipline était de la secouer fortement. Les plus grands peintres ont secoué la peinture, les plus grands musiciens ont secoué la musique, c'est peu de le dire. Et y compris en allant vers quelque chose qui apparaissait comme, à première vue, comme de la non-peinture ou de la non-musique. De la même manière, c'est sûr qu'à un moment donné, tous les grands philosophes, que ce soit Kierkegaard, Nietzsche, mais Marx et d'autres, et Heidegger à sa façon, ont énormément secoué la philosophie. Mais c'est peut-être, moi dans un domaine où je vis beaucoup, je sais que je fais beaucoup de théâtre et il n'y a pas un seul acte du théâtre qui m'intéresse s'il ne secoue pas le théâtre, vraiment quoi. Les gens qui se contentent de faire du théâtre tout simplement pour faire continuer la consommation théâtrale, je pense que c'est pas des gens qui aiment vraiment le théâtre. Bon, alors voilà, alors aimer la philosophie, c'est parfois la secouer, c'est comme un peu entre les gens, non? C'est-à-dire, des fois
en tout cas, s'il a tué la philosophie, la bête bouge encore.
Oui.
Donc peut-être qu'on peut continuer éventuellement à parler un petit peu entre nous, mais que ceux qui viennent de loin puissent se sentir libres de reprendre la route. Donc grand merci à Denis, grand merci à vous tous pour votre participation. Et donc vous avez le petit papier avec les programmes pour la prochaine fois sur la table. Vous trouverez le texte de Denis sur denisguenoun.org et la vidéo, je pense, d'une partie au moins de ce temps sur la chaîne YouTube de l'Oratoire et donc sur ton site aussi. Voilà. Donc merci beaucoup, bon retour.